7. Un sentiment d'irréalité m'envahit de nouveau. La créature qui m'avait agrippé quelques secondes avant que je parvienne à m'enfuir semblait sortie d'une vieille BD d'horreur, mélange de vampires, de squelettes et de zombies à la Walking Dead. Maintenant, les longs cheveux gris qui encadraient ses joues pâles étaient coiffés en arrière, dégageant un visage âgé, certes, mais dont les joues rouges offraient un signe de bonne santé. Ses lèvres étaient charnues et ses yeux, bordés de légères rides d'expression, me regardaient sous d'épais sourcils gris et broussailleux. Il me rappelait quelqu'un, sans que je puisse dire qui. « Ah !» fit-il, souriant. « Notre nouvel invité. Entre, je t'en prie. Aaron, tu peux nous laisser. »
Le soldat de la nuit qui m'avait conduit jusqu'ici, Aaron, donc, hésita. Kellyn le congédia d'un geste sans animosité. Aaron s'inclina légèrement, recula et ferma la porte. Je regardai autour de moi. On était dans un vestibule aux murs ornés de lambris. Il s'ouvrait sur un salon qui me faisait penser à un club pour gentlemen dans une histoire de Sherlock Holmes. Murs richement lambrissés là aussi, fauteuils profonds et grands canapés recouverts de velours bleu foncé, une demi-douzaine de lampes, qui ne fonctionnait pas au gaz, songeais-je, projetait de douces flaques de lumière. Apparemment, dans cette partie du palais, au moins, il y avait de l'électricité. De même que le bus, qui s'était frayé un passage au milieu des soldats de la nuit, fonctionnait à l'électricité. Le bus que conduisait l'individu que j'avais devant moi.
« Entre, invité !»
Il me tourna le dos, sans craindre une attaque de ma part, manifestement. Il me précéda dans le salon, un décor si éloigné de la cellule sombre et humide dans laquelle je m'étais réveillé qu'une troisième vague d'irréalité me submergea. Peut-être n'avait-il pas peur parce qu'il avait des yeux derrière la tête qui m'observaient à travers ses cheveux gris peignés avec soin et une touche de vanité et qui tombaient sur son col. Je n'en aurais pas été étonné. À ce stade, plus rien ne pouvait m'étonner. Deux fauteuils club se faisaient face de part et d'autre d'une petite table dont le dessus, carrelé, représentait une licorne qui se pavanait. Sur son arrière-train reposait un petit plateau supportant une théière, un récipient en verre de la taille d'une fiole contenant du sucre, du moins j'espérais que c'était du sucre et non pas de l'arsenic, de minuscules cuillères et deux tasses ornées de roses.
« Assieds-toi, assieds-toi. Thé ?»«
Oui, merci. »
Sucre. Il n'y a pas de crème, je le crains. Ça me donne des indigestions. D'ailleurs, tout ce qui se mange me donne des indigestions.
Il remplit d'abord ma tasse, puis la sienne. Je versai la moitié du contenu de la fiole dans ma tasse en m'empêchant de tout prendre. J'avais envie de m'empiffrer de choses sucrées soudain. Je portai la tasse à ma bouche, puis hésitai.
Tu as peur du poison ?
Kellyn continuait à sourire.
Si telle était mon intention, j'aurais pu ordonner que ça se passe tout en bas, à Maline, ou me débarrasser de toi de mille autres façons.
J'avais pensé au poison, en effet, mais ce n'était pas la cause de mon hésitation. Les fleurs qui décoraient le bord des tasses n'étaient pas des roses, c'étaient des coquelicots, ce qui me rappela Dora. J'espérais de tout mon cœur que Radar parviendrait à retourner auprès de cette femme au grand cœur. Je savais que les chances étaient minces. Mais vous savez ce qu'on dit à propos de l'espoir? C'est cette chose à plume. Il peut atteindre même ceux qui sont en prison. Surtout eux. Je levai ma tasse en l'honneur de Kellyn. Aux longues journées et aux nuits agréables, je bus. Le thé était sucré et bon.
Voilà un toast intéressant. Je ne l'avais jamais entendu.
C'est mon père qui me l'a appris. C'était la vérité. Mais c'était sans doute les seules paroles vraies que je prononcerais dans cette pièce somptueusement décorée. Mon père l'avait lu dans un livre quelconque, mais je n'avais pas besoin de le préciser. Le genre de personne que j'étais censé incarner ne savait pas lire.
« Je t'appelle invité, mais quel est ton nom ?»«
Charlie. » Je pensais qu'il voudrait connaître mon nom de famille, mais non.
« Charlie. Charlie. » Il faisait rouler mon prénom sur sa langue. Je n'ai jamais entendu ce nom-là.
Il attendait que je lui explique l'origine de ce prénom exotique, très courant dans mon monde, et comme je ne le faisais pas, il me demanda d'où je venais.
« Car je trouve que tu as un drôle d'accent. »«
Ouloum, » dis-je.
« Ah ? De si loin ? D'aussi loin que ça ? » ?»«
Si vous le dites. » Il fronça les sourcils et je remarquai deux choses. Premièrement, il était plus pâle que jamais. Les couleurs de ses lèvres et de ses joues étaient dues au maquillage. Deuxièmement, il me rappelait Donald Sutherland, que j'avais vu vieillir superbement dans plusieurs films diffusés sur TCM, de MASH à Hunger Games. Autre chose, l'aura bleue était toujours présente, mais diffuse. Un léger tourbillon transparent au fond de chaque narine, un frémissement à peine perceptible au coin des yeux.
Est-ce une marque de politesse de dévisager les gens à Ouloum, Charlie ? Et même une forme de respect.
Pardon. Je finis ma tasse de thé. Il restait une fine pellicule de sucre au fond. Je dus prendre sur moi pour ne pas y tremper mon doigt crasseux. Tout ça me paraît très étrange. Vous aussi.
Bien sûr, bien sûr. Encore un peu de thé ? Serre-toi et ne lésine pas sur le sucre. Ça non plus, je n'en mange pas. Et je vois que tu en veux encore. Je vois beaucoup de choses. Certains l'ont appris à leurs dépens.
Je ne savais pas depuis combien de temps la théière posée sur cette table attendait mon arrivée, mais le thé était chaud, légèrement fumant. Encore de la magie, peut-être. Je m'en fichais. J'en avais marre de la magie. Je voulais juste récupérer ma chienne et rentrer chez moi. Mais... il y avait la sirène assassinée. Un acte honteux, détestable. Le meurtre de la beauté.
Pourquoi as-tu quitté Ouloum, Charlie ?
Cette question cachait un piège. Grâce à Ahmet, je pensais pouvoir l'éviter. Je ne voulais pas mourir.
Ah !
J'ai échappé au poison.
Sage décision. L'erreur, c'était de venir jusqu'ici, tu ne crois pas ?
J'ai presque réussi à quitter la ville, rétorquai-je, et je repensais à une autre des phrases favorites de mon père, ce qui est presque vrai est tout à fait faux. Chaque question de Kéline était une mine que je devais esquiver si je ne voulais pas être pulvérisé.
Combien, à part toi, ont échappé au poison, comme tu dis ? Vous étiez tous des saints ?
Je haussai les épaules. Kéline fronça les sourcils et posa sa tasse brutalement. Il avait à peine trempé ses lèvres dans son thé.
« Ne sois pas impertinent avec moi, Charlie. Ce ne serait pas judicieux. »
Je ne sais pas combien on était. C'était la réponse la moins risquée que je pouvais fournir, étant donné que la seule chose que je savais concernant les saints, c'était qu'ils ne devenaient pas gris, qu'ils ne perdaient pas leur voix et qu'ils ne mouraient pas, a priori, parce que leurs viscères fondaient et que leurs tubes respiratoires s'obstruaient. Néanmoins... même ça, je n'en étais pas sûr.
Monseigneur Flykiller s'impatiente dans l'attente du 32e. C'est un homme sage, mais un peu puéril dans ce domaine.
Kéline dressa un doigt. L'ongle était long, cruel.
La vérité, Charlie, c'est qu'il ne sait pas encore que j'en ai 31. Par conséquent, je peux me débarrasser de toi si je le souhaite. Alors, fais bien attention et réponds honnêtement à mes questions.
Je hochai la tête en espérant avoir l'air contrit, et je l'étais. Quant à répondre honnêtement aux questions de ce monstre, certainement pas. À la fin, la situation était très confuse, dis-je. Je songeais aux empoisonnements collectifs survenus à Jonestown, en misant sur le fait que la même chose s'était produite à Ouloum. Ça peut paraître sordide, mais j'étais quasiment certain de jouer ma vie dans cette jolie pièce bien éclairée. J'en étais même persuadé.
Oui, je m'en doute. Ils ont essayé d'exorciser le gris grâce à la prière, et comme ça n'a pas marché, pourquoi souris-tu ? Tu as trouvé ça amusant ?
Je ne pouvais pas lui expliquer qu'il y avait dans mon monde, beaucoup plus éloigné qu'Ouloum, j'étais prêt à le parier, des chrétiens fondamentalistes persuadés qu'ils pouvaient éradiquer les homosexuels par la prière. « C'était stupide, » dis-je, « et la stupidité me fait sourire. » Cette réflexion le fit sourire à son tour et je vis une flamme bleue tapie entre ses dents. « Que vous avez de grandes dents, Kéline, » pensais-je.
« C'est dur. Toi aussi, tu es un dur, hein? On va voir ça. »
Je ne répondis pas.
« Donc, tu es parti avant qu'ils versent leur cocktail de belladone dans ta gorge. »
Il n'avait pas prononcé le mot « cocktail », mais mon esprit reconnut instantanément le sens de ses paroles et effectua la substitution. « Oui. »
« Avec ton chien. »
Il l'aurait tué, elle aussi. Je m'attendais à l'entendre dire «
Tu ne viens pas d'Ouloum, il n'y a pas de chien là-bas, tu inventes au fur et à mesure. »
Au lieu de cela, il hocha la tête.
« Oui, probablement. Il paraît qu'ils ont tué les chevaux, les vaches et les moutons. »
Il plongea le regard dans sa tasse, songeur, puis releva la tête brusquement. Ses yeux étaient devenus bleus et brillants. Il déversait des larmes électriques qui s'éteignaient sur ses joues ridées, et je vis fugacement les os scintiller sous sa peau.
« Pourquoi ici? Pourquoi venir, ô Lily? Dis-moi la vérité ou sinon je t'arrache ta putain de tête à main nue. Tu mourras en contemplant la porte que tu as eu la malchance de franchir. »
J'espérais que la vérité permettrait à ma tête de rester un peu plus longtemps à sa place. Ma chienne était vieille et j'avais entendu parler d'un cercle de pierre qui... Je fis tournoyer mon index dans les airs. Qui pourrait lui redonner sa jeunesse?
Et ça a marché.
Il le savait bien. Même s'il n'avait pas vu Radar galoper avant qu'il traverse le détachement des soldats de la nuit au volant de son véhicule électrique, d'autres l'avaient vu. Oui.
Tu as eu de la chance. Le cadran solaire est dangereux. Je pensais que le meurtre d'Elsa dans son étang mettrait fin à ses pouvoirs. Mais la vieille magie est entêtée.
Elsa, ainsi se nommait Ariel dans ce monde.
Je pourrais ordonner à quelques gris de le détruire à coups de masse, mais pour cela il faudrait l'autorisation de Flight Killer et il ne me l'a pas donnée jusqu'à présent. Petra a son oreille, je suppose. Elle aime ce vieux cadran. Sais-tu ce que peut faire la magie, Charlie?
Je pensais qu'elle pouvait faire toutes sortes de choses. Elle permettait par exemple à des pèlerins malchanceux comme moi de visiter d'autres mondes. Mais je fis non de la tête.
Elle donne de l'espoir aux gens. Et l'espoir, c'est dangereux également. Tu n'es pas d'accord?
Je faillis répondre que l'espoir était cette chose à plumes, mais décidai de garder la citation de Dickinson pour moi. « Je ne sais pas, monsieur. » Il sourit et durant une fraction de seconde, je vis sa mâchoire nue scintiller sous ses lèvres.
« Moi, je sais. Oui, je sais. N'est-ce pas l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà qui a poussé les habitants de ton infortunée province à s'empoisonner et à empoisonner leurs animaux quand ils ont vu que leurs prières ne suffisaient pas à exorciser le gris? Toi, à l'inverse, tu nourrissais des espoirs terrestres, alors tu t'es enfui. Maintenant, te voilà ici. Là où meurent tous les espoirs des gens tels que toi. Si tu n'y crois pas, ça viendra. Comment as-tu fait pour passer malgré Anna?
J'ai attendu et j'ai tenté ma chance.
Dur et courageux par-dessus le marché.
Il se pencha vers moi et je sentis son odeur, des relents de pourriture ancienne.
« Ce n'est pas uniquement pour ton chien que tu as couru le risque de venir à Lilimar, hein ?»
Il leva la main pour me montrer son ongle long.
« Dis-moi la vérité ou je t'égorge. »
« Laure, lâchai-je. Kéline rejeta cette explication d'un geste.
Il y a de l'or partout dans le Lily. Le trône sur lequel Anna s'assoit, pète et roupille, est en or.
Je pouvais difficilement transporter un trône, n'est-ce pas, monsieur ? Ma réponse le fit rire. C'était un son épouvantable, des os secs qui s'entrechoquaient. Il s'arrêta soudain.
J'ai entendu dire, bafouillai-je, mais ces histoires sont peut-être fausses, qu'il y avait de petites pépites d'or.
Oui, le trésor, évidemment. Mais tu ne l'as jamais vu de tes propres yeux, n'est-ce pas ?
Non.
Tu n'as jamais assisté au jeu ? Tu ne l'as jamais regardé, bouche bée, à travers la vitre ?
Non.
J'avançais en terrain miné, car j'avais seulement une vague idée de ce dont il parlait. Là encore, c'était peut-être un piège.
Et le puits obscur ? Est-ce qu'on en parle à Ouloum ?
Oui. Je transpirais. Si cet interrogatoire se poursuivait, j'allais finir par sauter sur une de ces mines, je le savais.
Pourtant, tu as fait demi-tour après le cadran solaire. Pour quelle raison, Charlie ?
Je voulais repartir avant la nuit. Je me redressais et tâchais d'insuffler un soupçon de défi dans ma voix et sur mon visage. J'ai presque réussi.
Kéline sourit de nouveau. Derrière l'illusion de sa peau, son crâne sourit. Lui et les autres avaient-ils été humains autrefois ?
Sans doute.
Il y a de la douleur dans ce mot. Tu ne trouves pas ? Chaque presque déborde de douleur.
Il tapota ses lèvres maquillées avec son ongle affreusement long en m'observant.
Je ne te porte pas dans mon cœur, Charlie. Et je ne te crois pas, absolument pas. Je suis tenté de t'envoyer sur les tapis, mais Flight Killer n'approuverait pas cette décision. Il en veut 32, et avec toi, il n'en manque plus qu'un. Alors, retour à Maline.
Il aboya un ordre en forçant tellement sur sa voix que j'eus envie de me boucher les oreilles, et pendant un instant, il n'eut plus devant moi qu'un crâne enveloppé d'un feu bleu au-dessus de la préciosité de la veste en velours rouge.
« Aaron !»
La porte s'ouvrit et Aaron réapparut.
« Oui, messire. Ramène-le dans sa cellule et montre-lui les tapis en passant. » Je veux qu'il voie qu'il existe un sort pire que Maline dans ce palais où régnait jadis le roi Yann, que son nom sombre rapidement dans l'oubli. Charlie ?
Oui ?
J'espère que tu as apprécié ta visite et le thé avec du sucre.
Cette fois, l'illusion de son visage sourit à l'unisson de son crâne réel.
Car tu n'auras plus jamais droit à pareil traitement. Tu te crois intelligent, mais je vois clair en toi. Tu crois être dur, mais tu vas te ramollir. Emmène-le.
Aaron leva sa badine, mais s'écarta pour que je ne sois pas obligé de toucher son aura paralysante. Au moment où j'atteignais la porte, alors que se profilait la possibilité de fuir cette pièce horrible, Kéline s'exclama
« Oh bon sang, j'ai failli oublier. Reviens, Charlie, s'il te plaît. »
J'avais regardé suffisamment de rediffusions de Columbo avec mon père le dimanche après-midi pour connaître le coup de la dernière petite question, et je fus saisi par l'appréhension. Je revins à côté du fauteuil dans lequel je m'étais assis. Kéline ouvrit un tiroir de la table basse et en sortit quelque chose. Un portefeuille. Mais ce n'était pas le mien. Mon portefeuille était un Lord Buxton Bordeaux que m'avait offert mon père pour mes 14 ans. Celui-ci était noir, ramolli et éraflé.
« Qu'est-ce donc ? »
demanda-t-il.
« Ça m'intrigue. »
« Je ne sais pas. » Une fois le choc initial passé, je m'aperçus que je le savais. Je revis Dora me donnant les bons en cuir et me faisant signe de me débarrasser de mon sac à dos pour éviter de le transporter jusque chez Léa. Je l'avais ouvert pour glisser mon portefeuille dans ma poche arrière, par automatisme, sans réfléchir et sans regarder. J'observais Radar en me demandant si je pouvais la laisser avec Dora, et au lieu de prendre mon portefeuille, j'avais trimballé celui de Christopher Paulet pendant tout ce temps. Je l'ai trouvé par terre et je l'ai ramassé, dis-je. Je pensais qu'il avait peut-être de la valeur. Je l'ai fourré dans ma poche et je l'ai oublié. Kéline ouvrit le compartiment à billets et en sortit toute la fortune de Paulet, $10.
C'est peut-être de l'argent, mais je n'ai jamais rien vu de tel.
Alexander Hamilton aurait pu ressembler à un des habitants saints d'Empis, voire à un membre de la famille royale, mais il n'y avait aucune inscription sur le billet, uniquement des gribouillis enchevêtrés qui me faisaient presque mal aux yeux. Et à la place des chiffres 10 dans les coins, il y avait des symboles.
« Tu sais ce que c'est ?»
Je secouai la tête. Les mots et les chiffres imprimés sur le billet étaient intraduisibles en anglais comme en empissarien apparemment. Ils avaient échoué dans une sorte de désert linguistique. Kéline exhiba ensuite le permis de conduire de Paulet. Seul son nom était lisible. Le reste n'était qu'une masse de runes d'où surgissait parfois une lettre reconnaissable.
« Qui est ce Paulet ? Et quelle est donc cette image ? Je n'ai jamais rien vu de tel. »
Je ne sais pas. Je savais une chose, en revanche. Balancer mon sac à dos pour pouvoir courir plus vite avait été un sacré coup de bol. Il contenait mon portefeuille, mon téléphone, qui aurait beaucoup intéressé Kaline, j'en suis sûr, et les indications que j'avais notées sur ordre de Claudia. Je ne pensais pas que les mots écrits sur cette feuille auraient pris l'apparence d'un charabia runique, comme sur le billet de $10 ou le permis de conduire de Paulet. Non, ils auraient été écrits en empissarien.
« Je ne te crois pas, Charlie. »
« C'est la vérité, » dis-je d'une voix rauque. « Je l'ai trouvé dans le fossé au bord de la route. »
« Et ça ?»
Il montra mes baskets crottées.
« Dans un fossé aussi, au bord de la route ?»«
Oui, avec ça. » Je montrai le portefeuille et attendis qu'il sorte le revolver de M. Boditch.
« Et ça, Charlie, on l'a découvert dans les hautes herbes, non loin de la porte principale. J'étais quasiment certain que c'était ce qui allait se produire. »
J'avais tort. Au lieu de montrer l'arme, tel un magicien qui sort un lapin de son chapeau, Kéline lança le portefeuille à travers la pièce.
« Emmène-le » bria-t-il à l'adresse d'Aaron. « Il est sale. Il a sali mon tapis, mon fauteuil et même la tasse qu'il a utilisée. Emmène cette vermine qui ment comme elle respire hors de mes appartements. »
J'étais bien content de quitter cet endroit.